News FM.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de La Voix de l'Emploi, l'émission qui aborde l'emploi sous toutes ses formes. Après les deux dernières éditions, nous sommes partis en mode hors les murs, je vous le rappelle, en mai nous étions au salon multimétier de Grenoble et en juin au salon EPA de la mini-entreprise, et bien nous voici revenus en studio en mode plus intimiste avec deux invités pour parler de création d'entreprise. Alors ce n'est pas la première fois que nous abordons ce sujet sur notre antenne, au contraire c'est un sujet récurrent quand on évoque les pistes pour trouver l'emploi qui nous correspond. Habituellement nous avons plutôt des représentants de structures d'accompagnement qui aident les porteurs de projets d'entreprise à concrétiser leurs objectifs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons souhaité nous concentrer sur les projets eux-mêmes avec deux exemples d'activités économiques, Custom H et Automobilier. Et ce sont donc nos deux invités, Hassen Bouzerara et Cyril Delecambre, qui sont venus nous en parler. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors voilà, je n'avais pas donné les consignes, il faut bien parler très près des micros pour qu'on vous entende parfaitement. Bonjour messieurs et soyez les bienvenus. Hassen, vous avez participé en fait à la mise en place de Custom H, la société, mais comme vous me l'expliquiez juste avant, c'est votre frère qui s'en occupe plus particulièrement.
Je vous explique en deux, trois mots. Alors c'est une idée que j'ai eue et que j'ai fait moi et que j'ai testé. Et puis j'en ai parlé à mon frangin qui lui est très amoureux de la Snakers, et c'est son truc. Et on a kiffé tous les deux. Du coup on a commencé comme ça dans notre garage à faire ça entre nous. Puis lui il a décidé carrément de créer son entreprise. Donc moi je l'accompagne, je le conseille sur plein de choses et détails artistiques. Et on est super contents.
On va revenir dans quelques secondes pour que vous présentiez un petit peu plus l'activité. Juste pour préciser aux auditeurs, puisque vous avez commencé à parler de sneakers, on parle de custom.
Alors, c'est de la basket.
Donc, c'est de la customisation de basket, en fait. De la décoration de basket.
La
personnalisation.
Tout à fait.
En fonction des goûts des personnes qui viennent vous voir pour que vous leur proposiez quelque chose. Et donc, Cyril Delecambre, vous représentez la société Automobilier que vous avez cofondée à Troyes, c'est ça ?
Oui, on est trois associés, cette entreprise. C'est une entreprise qui a un an dans l'aménagement de véhicules utilitaires, donc tout ce qui est plancher, doublage, casier et la signalétique sur véhicules.
Donc on précise que vos deux sociétés sont sur l'agglomération grenobloise, donc vous êtes des entrepreneurs bien d'ici, des entrepreneurs locaux. Alors, on va commencer, on continue avec vous Cyril, pour nous parler un petit peu plus de cette société. Donc ça s'adresse essentiellement à des professionnels, tous ceux qui ont des véhicules utilitaires. Là, vous nous parliez d'un contrat que vous avez actuellement avec la ville de Grenoble. C'est combien de clients actuellement vous avez combien de projets, de contrats ?
Là, actuellement, on bosse avec pas mal de concessionnaires. Donc, on a Mercedes, Renault, Citroën, Volkswagen. On bosse aussi avec des entreprises comme la mairie de Grenoble. Et quelques particuliers aussi qui viennent nous voir. On fait aussi des marchands qui ont des projets aussi pour leurs étalages de marché. Et on est actuellement à 120 véhicules sur une année. On a mis un petit peu de temps à se lancer. On s'est lancé en septembre de l'année dernière. Vraiment, on a commencé à travailler septembre, octobre. Et là, on a de plus en plus de véhicules.
Alors, vous êtes deux sur les trois associés à travailler véritablement. Le troisième a apporté des fonds. Il est plus associé sur le projet que sur le travail ensuite que vous faites. Alors on imagine facilement que des particuliers puissent venir vous voir, des artisans pour aménager leur véhicule de manière à pouvoir travailler correctement. Mais alors quand c'est des concessionnaires, là c'est un peu plus bizarre parce qu'on dit les concessionnaires, ils vont vendre les véhicules tels quels. Pourquoi est-ce qu'ils vous demandent d'intervenir ?
Ils proposent à leurs clients d'habiller les véhicules, donc de protéger les parois intérieures, les planchers et tout ça. Et donc, avant que le client récupère son véhicule en concession, il passe d'abord dans notre atelier, on l'équipe et ensuite on le ramène en concession.
D'accord, donc vous êtes sous-traitant pour, voilà, pour les, ça, les, ouais, concessionnaires.
Tout à fait.
D'accord. Voilà. Asen, donc Customash, qui est aussi une jeune entreprise, hein, puisque tout comme Automobilier, ça fait, c'est à peu près sur la même période aussi que,
exactement,
que vous vous êtes
on a,
monté.
On a démarré exactement, mon frère a démarré, a pris le local au mois de septembre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on avait déjà démarré un peu dans un garage pour voir un peu ce que ça donnait, tester un peu notre matériel et puis voir ce que ça donnait. Voilà, depuis septembre, et pareil, on a beaucoup de demandes, ça commence à bien gonfler. Voilà, on persiste, on fait du travail très très minutieux, c'est des... voilà, c'est, on refait de la basket, toutes les semelles, toutes les couleurs qu'il peut y avoir. On fait de la rénovation, faut qu'on le sache. De la rénovation, du nettoyage de basket.
Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont attachés.
Alors il y a pas mal de modèles et pas mal de sneakers qui sont maintenant classés un peu... On les retrouve pas trop et ça coûte cher. Et donc du coup, on les remet en état complet.
D'accord. Ça, et comment ça se passe? Alors, la personne vient vous voir dans votre local en apportant une paire de baskets, soit neuves, soit usagées.
Voilà.
Il faut qu'ils vous donnent un peu leurs idées ou c'est
alors,
vous qui
principe,
proposez
le principe, ça dépend. Hein. Si on vient avec une paire de baskets qu'on aime bien et qui est un peu abîmée, etc., on va avoir un peu. On va faire un devis, si vous voulez, de la basket. Et puis on va la refaire. Après, en ce qui concerne la custom, ouais, effectivement, nous on n'a pas de modèle défini. On fait en fonction du client ce qu'il veut, quoi. C'est vraiment, on est ouvert sur plein de choses. Après, on peut proposer des choses artistiques qu'on fait habituellement, et pour ça, il n'y a pas de souci.
Ça prend combien de temps à peu près pour customiser des sneakers?
Alors tout dépend, hein, en fonction de ce que c'est.
Une fourchette, du plus court délai jusqu'au plus long.
Alors ça peut prendre une journée, voire jusqu'à avoir, si c'est vraiment un truc bien bien complexe, ça peut prendre bien une semaine. Ouais, c'est vraiment des trucs que des fois on peut passer du temps dessus.
Et ça coûte combien?
Alors on a une fourchette entre, après c'est toujours par des devis, mais on commence vraiment une custom à 30-40 balles, pas plus et pas moins. Et en fonction des couleurs qu'on ajoute et des motifs ou de, tout simplement des dessins qu'on veut mettre, là on peut grimper son prix. Et ça reste accessible quand même en fonction du coût de la paire de sneakers aujourd'hui, de la paire de baskets, on reste quand même un peu moins cher.
Ça reste jusqu'où on peut aller pour personnaliser une paire de chaussures,
parce alors, que jusqu'où,
c'est uniquement mettre des motifs sur la basket, ou on peut rajouter des éléments?
Alors, on peut rajouter des éléments, on peut changer les couleurs, on peut vraiment faire des dégradés, on peut vraiment tout faire, quoi. C'est vraiment, y a pas de limite. Après, la seule limite qu'on peut avoir, c'est la taille de la chaussure.
Ah oui, parce qu'à un moment donné,
on peut pas aller
plus qu'on sorte avec des chaussures de clown, quand même.
On peut passer sur la table, mais voilà. Donc non, il y a vraiment pas de limite sur la custom de sneaker.
Et vous me disiez tout à l'heure que c'est quelque chose qui marche bien. Il n'y a pas encore
c'est
beaucoup
quelque chose
de
qui,
concurrents.
Alors c'est
sur
un concept
le
qui est bon. Déjà, on sait que ça vient des États-Unis. C'est un concept qui marche super bien et ils sont un peu plus en avance que chez nous. Nous, ça vient d'arriver. Ça fait quelques années où là, ça commence à se développer dans les grandes villes. Nous, à Grenoble, on est les premiers depuis septembre. Il y a quand même des gens qui sont dans l'underground, qui font ça, mais qui sont dans l'underground et qui ne sont pas ouverts en entreprise, etc. Mais voilà, ça commence à se développer. C'est un service qui va devenir, je pense, comme emmener sa chemise au pressing, etc. Quoi.
D'accord.
Ça va vraiment entrer dans les mœurs des gens.
Cyril, donc vous vous adressez à des clients nettement plus professionnels, encore qu'eux, il peut y avoir parfois des particuliers qui viennent vous voir pour aménager un véhicule, peut-être pour aller partir en vacances, installer des lits, superposer ou je ne sais quoi. Donc pareil que la question que je posais à Hassan, en termes de durée d'immobilisation du véhicule, en fonction, vous allez me dire, ça dépend de, ouais, de ce que veut la personne, mais voilà, une petite fourchette, et puis également combien ça coûte pour faire adapter son
véhicule. Je vais partir sur un exemple d'un Kangoo. De base, sur un plancher doublage simple dedans, on va mettre entre 4 et 5 heures à le débiter et à le poser. Donc c'est aux alentours de 400 € à peu près. Et puis après, il y a des véhicules beaucoup plus complexes. On peut passer une semaine dessus s'il y a des casiers, si le bois est spécifique aussi. Parce qu'on a plusieurs gammes de bois. On a du brut, mais on a aussi du bois filmé qui est lessivable. Donc tout ça, ça se travaille différemment. Et on passe beaucoup plus de temps sur ce genre de véhicule. Donc on va dire, s'il y a des casiers dedans, on va mettre peut-être 3-4 jours dessus. Et c'est après ça. C'est vraiment en fonction de ce que les options choisies par le client dessus. S'il y a la signalisation, des gyros, triflage, des galeries, des choses comme ça. Ça peut partir de 400 € et monter jusqu'à 5 000-6 000 € un véhicule.
Ouais. Alors, l'un des secrets, on va pas parler de secrets, mais l'une des choses qui font qu'une activité va avoir du succès, c'est d'être sur un marché où on arrive un peu en novateur. Alors, Hassen, on l'a compris, il n'y a pas encore beaucoup de concurrents, en tout cas sur la région, et même peut-être en France, hein, vous me disiez, c'est pas encore quelque chose qui a vraiment envahi les habitudes en France, sur la customisation de véhicules, enfin, je ne sais pas si on peut parler de customisation, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment sur la déco. Vous, ouais, c'est plus c'est sur l'utilitaire, ouais, de l'aménagement. C'est pareil, c'est un marché sur lequel, là, pour l'instant, vous arrivez à trouver facilement
Il y a plusieurs concurrents sur la région, quand même. Il y a un gros concurrent et des petites boîtes comme la nôtre. Mais il y a du boulot pour tout le monde, ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sortent chaque jour des concessionnaires. Et quand les grosses boîtes ont des délais des fois un peu hors limite, ça permet aux petites boîtes de pouvoir prendre ce genre de contrat.
Mmh. Ouais. Alors, tous les deux, donc, vous représentez une structure, une activité qui est assez jeune, hein, à peu près un an. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous étiez déjà dans ces domaines-là? Et est-ce que votre expérience passée vous a aidé pour vous lancer en auto-entrepreneur?
Alors pour ma part, oui, pour ma part, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 8 ans avant de me lancer. Et pendant ces 8 ans, j'ai beaucoup appris jusqu'à devenir un des éléments clés de la société dans laquelle j'étais. Et j'ai aussi pu observer qu'il y avait quand même pas mal de clients que la société ne pouvait pas se permettre de prendre faute de délai, justement. On voyait aussi le parc se remplir et se vider à petite allure, quoi. Donc il y avait du boulot, en tout cas, et puis... on a dit, on va se lancer, on va essayer, voir ce que ça donne. Et voilà.
Hassen, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait avant en parcours professionnel?
Alors, professionnel, j'ai fait plein de choses, mais pour en venir à l'artistique, j'ai fait beaucoup de dessins. J'étais passionné quand j'étais jeune de dessin, de peinture, etc. J'en ai fait beaucoup. Donc voilà, ce passé qui fait qu'on a ce côté un peu artistique. Après, j'ai baigné dans le hip-hop, etc., le graph, ça m'a apporté beaucoup. Et du coup, j'ai laissé tomber pendant quelques années, j'ai dû me faire autre chose. Et, parce que voilà, force des choses fait qu'on est obligé de travailler, même sur des postes qu'on n'a pas forcément besoin ou envie. Mais, pardon. Mais c'est vrai que cette idée, elle m'est venue là et on a voulu la faire avec mon frangin. C'est parce qu'on a toujours été passionné de dessin et on a toujours baigné là-dedans. Donc voilà, c'est ce qui a fait qu'on a été poussé. Et puis ouais, effectivement, le business de la chaussure et de la basket, voilà, il y a une grande place en France et il y a du boulot pour tout le monde. Donc voilà, on a voulu exploiter.
Alors on a compris donc que Cyril, lui, comme il l'a dit, il baignait dans cette activité d'aménagement de véhicules utilitaires. Donc ça l'a forcément aidé. Il avait déjà le savoir-faire pour son entreprise. Est-ce que vous, ce que vous avez fait avant, vous pensez que ça vous a aussi aidé à pouvoir vous lancer ou ça a été vraiment l'aventure, on se jette à l'eau?
Non, je crois qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on calcule et ça, c'était un peu calculé. Moi, j'ai une expérience aussi, j'avais une société de transport, donc je faisais du transport et j'ai fait ça pendant un moment. Donc, j'ai déjà l'expérience d'avoir géré une société. Et puis, j'ai beaucoup conseillé mon frangin qui n'a jamais monté de société, c'est la première fois. Mais donc on l'entoure, on donne les bons conseils et on essaye de l'accompagner fortement.
Alors, après avoir l'idée ou l'envie de monter sa propre affaire, hein, devenir indépendant, quelle a été la toute première étape? Ou peut-être, plutôt que de parler au passé, je dirais d'une manière générale, quand on monte sa société, quelle est la toute première étape? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre émission, c'est aussi pour permettre à ceux qui nous écoutent et qui ont eu toujours une petite envie de se dire « Ah là là, si je devenais mon propre patron !» Donc, il faut commencer par quoi, après avoir l'idée?
La première chose qu'il faut faire, c'est une étude de marché, simplement. Et de voir si effectivement ce business il peut fonctionner à long terme. Après, il faut mettre de l'énergie, il y a plein de choses.
Donc étudier la faisabilité, est-ce que vous avez fait ça tout seul ou vous avez été aidé? Parce que c'est pas forcément mener une étude de marché.
Mais après, on peut demander de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour ça et c'est pas un souci. Mais bon, après, avec nous, l'expérience, on a quand même, on l'a fait nous-mêmes et il n'y a pas de souci.
Ok. Cyril, la toute première chose que vous avez
fait? Pareil, je dirais l'étude de marché. Après, nous, pour ma part, j'ai eu la chance de voir, par rapport au métier que je faisais avant, de voir qu'il y avait encore de la place et de savoir que déjà l'étude de marché était déjà quasiment faite, quoi. On savait qu'il y allait avoir du boulot derrière. Après, il y a tout ce parcours de chambre des métiers, le stage qu'on fait pendant une semaine, faire un business plan, tout ça, essayer de tout mettre sur papier, voir si ça peut fonctionner. Donc j'avais une conseillère aussi que je voyais de temps en temps par semaine pour étudier tout ça ensemble.
Une conseillère de quelle structure?
Je crois que c'était la chambre des métiers.
Chambre des métiers?
Ouais, elle était affiliée à la chambre des métiers.
Et donc, parce que c'est vrai que ce soit la chambre des métiers, chambre de commerce, ils ont en général maintenant des gens qui sont spécifiques pour accompagner les porteurs de projets, création d'activités d'entreprise. Pôle emploi aussi peut conseiller. Et puis, comme je le disais en ouverture, il y a beaucoup aussi de structures associatives qui accompagnent. Donc là, c'est pas les ressources
les fonds et tout ça,
qui manquent. Voilà. Ouais. Il y a aussi cette grosse question de savoir comment on trouve l'apport initial. Alors justement, Hassan, Cyril, le capital de départ, comment vous avez fait vous pour le trouver? Est-ce qu'il a été important? Est-ce qu'il a fallu réunir une somme importante pour lancer le business ou pas?
Nous, il a fallu, en fonction justement du business plan, il nous fallait 25 000 euros au départ. Donc on a pu en discuter avec notre troisième associé, lui présenter l'idée, le business plan et tout ça, voir avec lui.
Donc ça a été un apport personnel, vous n'avez pas eu à faire des démarches pour avoir des subventions ou des aides?
Donc une fois que l'argent était en place, on a pu commencer à acheter nos matériaux, tout ça, et avancer. C'est vrai que ces 25 000 euros de départ, sans ça, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce que même les structures qui prêtent de l'argent, elles prêtent, mais jusqu'à un certain niveau, quoi. Ça va s'arrêter aux alentours de 10 000 euros, mais 10 000 euros, ça aurait été vraiment juste.
Le statut de automobilier en tant qu'entreprise, c'est quoi? C'est une
SAS.
Une SAS. Ouais. Donc une société anonyme.
Société Action Simplifiée.
Action Simplifiée. Ah, je ne suis pas le spécialiste de tous les sigles. Hassan, sur le capital de départ, combien vous avez eu besoin?
Alors,
de revenir?
C'est pareil, c'est de l'apport personnel. Mais ce n'est pas aussi gros que mon voisin. Là, c'est quand même une somme conséquente, mais c'est vrai que on n'avait pas forcément besoin d'acheter des grosses machines, etc. On a du matériel à acheter, mais en termes de financement, ça nous a coûté un peu moins cher que sur ce domaine-là. Mais ça reste quand même un investissement parce qu'on loue mon frère loue un local.
Un local, oui.
Il y a des frais. Tout ça, etc. Donc, il y a un apport là sur ce coup-là, il y a un apport personnel. Après, effectivement, je pense qu'il y a des aides pour les gens qui veulent monté leur société.
Donc c'est ce que de toute façon tous les invités qu'on a pu avoir nous ont toujours rappelé, que ce soit des témoignages hein, comme vous de porteurs de projets ou des structures. Il faut d'abord bien se renseigner sur tout ce qui existe, tous ceux qui peuvent apporter une aide, des conseils et ensuite pousser les bonnes portes. Alors justement, pour vous, quelle a été peut-être la structure, leur chambre des métiers, vous disiez, Cyril, ouais, qui a été la structure qui vous a le plus aidé, le plus accompagné.
Ouais, ouais,
et de votre côté, Hassan, vous étiez seul ou vous avez fait appel à
C'est la chambre de commerce, parce que nous, on fait du service. Donc, c'est eux qui vous accompagnent sur votre projet, sur l'élaboration de votre projet.
D'accord. On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, et puis on va se retrouver juste après pour parler un petit peu des difficultés qu'on peut rencontrer quand on se lance comme ça. Est-ce que c'est si compliqué que ça ? On a parfois des échos. Hein. En France, c'est compliqué de monter son business par rapport à d'autres pays qui favorisent davantage la libre entreprise. Et on va en discuter donc avec nos deux invités juste après ça.
Son, long time no see. Since you've been gone, well, more confusion, less bread for the streets, fake revolutions, well. So I say, please
hold on.
We're out of love when you make it back home.
Tourne en rond, rien de carré, danse, monde trop de prières sans réponse, t'as dû te barrer, conséquence, ils ont prié en ton nom, tout déclaré, ça fait le sens, de tes billets, shalom, salam, je vous salue, Marie, je sais pas si ils ont tué ton fils, si t'as fait passer Moïse, s'il faut jeûner ou pas, si tu tapais Ja ou Loïse, mais j'aimerais te solliciter, pas pour être joli, friqué, si joins une liste de situations grippées, inégalité, nord, sud, pauvre, contre fort, tu n'es minorité, torturée, trop de haine, dès que tu n'es barré, que tu reviens sérieux, c'est le moment là, tu fais recette, PS, dis-moi quand est-ce que l'on sait.
So I say please,
hold on.
We're out of love, when you make it back home.
Je ne sens plus vraiment à la mode. On fait des murs par l'amour. On est à court de mis à mort. On laisse la misère à la porte et le bonheur toujours à la bourre. T'es plutôt discret dans le genre. À quand la vraie bonne mise à jour? À quand le vrai beaucoup de foudre savoure comme le goût des mangues? On a tellement perdu le goût d'aimer qu'on a même perdu le goût du manque. Les mêmes vérités qui dérangent et les mêmes qui tendent l'autre jour. La paix serait une autoroute. C'est nous les chauffeurs du dimanche. C'est toi le sauveur à les rentrer. On m'a dit que l'enfer était vide. Que tous les démons sont ici. Que nos professeurs sont des cancres. Tournons la page, changeons de livre. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Ce monde-là n'a presque plus d'encre. Ainsi soit-il.
Hold on. We're out of love, will you make it back home?
Hold on.
Yeah, I say please.
Hold on.
We're out of love, will you make it back home? So I say please.
Back home, we gotta get back home.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. Vous écoutez La Voix de l'Emploi sur News FM et nous parlons aujourd'hui de création d'activités économiques avec nos deux invités, Hassen Bouzerara de la société Custom H, customisation de sneakers, basket, et puis Cyril Delecamp de l'entreprise Automobilier, aménagement de véhicules utilitaires. Voilà, alors, messieurs, concernant vos activités qui sont relativement neuves, elles ont un an, hein, toutes les deux, à peu près, en septembre prochain. Est-ce que on sait qu'il faut une période quand même, hein, pour minimum, pour ensuite dire, ça y est, l'activité, elle est sur les rails, elle fonctionne, elle tourne. Donc là, après un an, est-ce que c'est encore trop récent, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette, cette viabilité de l'activité?
Oui. Alors, un an, ouais, ça fait un peu court, donc moi, je pense qu'il faut bien deux ans pour voir à peu près comment ça tourne. Ouais, un an, c'est encore frais, on est encore dans le développement de l'atelier. Donc ouais, ça fait court.
En tout cas, vous disiez que là, après un an, quand même, ça fonctionne. Il y a, ouais. Il y a du alors, travail, il y a des clients.
Alors depuis, oui, on a...
Donc c'est
on a
plutôt quand même, sur la bonne voie.
Ouais, c'est sur la bonne voie, ça va. On a quand même pérennisé une clientèle. Donc ça commence à fonctionner.
Et pour Automobilier ?
C'est pareil, on a attaqué... en fait, on avait notre local dès le mois de juillet de l'année dernière. Et on n'a pas attaqué à bosser avant fin septembre, début octobre, le temps de démarcher les concessionnaires, le temps qu'il y en ait un qui nous fasse confiance. Et voilà, après c'est toujours comme ça, on commence avec un véhicule, ça se met en place tout doucement. Surtout sur les véhicules, c'est des véhicules neufs, ils ont déjà des contrats avec des grosses sociétés avec qui ils ont l'habitude de bosser, il faut réussir à leur enlever ces habitudes-là. Donc ça prend un certain temps. Là, sur cette fin d'année, là, sur les 2-3 derniers mois, on commence à voir que... On a de plus en plus de boulot et ça devient de plus en plus régulier. Mais sinon, ouais, c'est bien 7-8 mois où on est un peu dans l'attente, toujours aller chercher toujours du client, toujours. Encore aujourd'hui, on est encore dedans, mais on a déjà plus de boulot là.
Qu'est-ce qui est au jour d'aujourd'hui, donc après un an, avec laquelle vous vivez tous les jours, 24 heures sur 24 quasiment, hein, parce que peut-être que vous en rêvez même la nuit de votre société, parce que c'est pas évident, hein, ça doit être quand même des soucis, du stress. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui,
Hassen? Bon, le plus difficile, ça a toujours été depuis le début, c'est de satisfaire sa clientèle. C'est d'être au top de ce qu'on fait, et je crois que ça, c'est le premier des soucis qu'on a. Et après, voilà, on essaye de gérer les soucis au quotidien comme on peut.
Voilà, donc le souci principal, c'est le chiffre d'affaires, arriver à avoir les clients. Justement, comment vous procédez? C'est le bouche-à-oreille, vous faites de la pub, comment vous...
Ouais, voilà, on essaye de faire beaucoup de com, ben déjà sur les réseaux sociaux, Internet, on a un site. Voilà, on essaye de beaucoup faire de visuels sur notre travail, sur Insta... Snap, donc on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. Et effectivement, oui, ben la première des choses, c'est bouche à oreille, c'est comme ça que ça se transmet. Puis voilà.
Hein. Ouais, Cyril, pour Automobilier, qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui?
Le plus dur aujourd'hui, je pense que nous, c'est au niveau des délais de paiement, les choses comme ça. En fait, il y a sur la clientèle, en général, il y a 30 jours. Il y en a certains qui fonctionnent à 45, il y en a ces 30 jours plus le 15 du mois d'après. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de se caler avec tout le monde et d'être réglé à temps. Ce qui fait que nous, des fois, on achète des fournitures. Nous, on est à 30 jours aussi. Une fois que les fournitures sont achetées et payées, si on n'a pas eu le règlement du client entre-temps, tout ça, c'est des décalages aussi de frais qui nous font des fois faire des relances. Ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'énergie aussi. Et puis, ben, on ne peut pas se mettre non plus en porte-à-faux avec notre clientèle non plus. Donc, tout ce qui est des concessionnaires, des choses comme ça, eh ben, on laisse traîner un peu, mais on est obligé de revenir à la charge tout en étant cordial. Et je pense que c'est le plus compliqué aujourd'hui. Après, tout le reste, ça va, ça roule.
Mmh. Ouais.
En plus, les aspects commerciaux, les détails un peu comptables,
trésorerie, ce genre
de choses. Ouais. Justement, en tant que société, vous êtes obligé d'avoir un comptable. Donc, vous passez par des sous-traitants, des agences extérieures qui s'occupent de la comptabilité.
Nous, on a un comptable extérieur, ouais. Après, on mâche un peu le travail avant les rendez-vous chez le comptable. On réunit toutes les factures, tous les achats, tout ce qu'on a rentré aussi. Et on arrive là-bas avec un dossier complet. Chaque facture, chaque ticket de caisse, il faut qu'il en manque aucun. Mais ouais, je pense que c'est encore un job à côté, ça, qui est vraiment complet aussi.
Mm-hmm. Donc, vous fonctionnez de la même façon
oui, sur
la
pareil,
partie comptabilité, sous-traité.
Je crois que c'est un peu, des fois, il faut.
Donc, ouais. Alors, tout à l'heure, pendant la pause, Cyril, vous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que quand on parle de stress, entre monter le projet et commencer à travailler, et puis ensuite, une fois que l'affaire est en place et qu'il faut arriver à la faire vivre et la faire durer, ce sont deux formes de stress complètement différentes. Ouais. Pour vous, comment vous avez vécu la phase de montage du projet ? Est-ce que ça a été difficile, compliqué ? Et vous avez été soulagé lorsque le plus gros avait été fait, ou au contraire, ça a été plutôt intéressant, ça s'est bien passé. Comment vous avez vécu cette période de mise en place ?
Bah, moi, pour ce qui est du côté technique, bon, j'avais pas ce stress-là, parce que c'est un métier que je connais quand même pas mal. Après, c'est tout ce qui est côté paperasse, ne serait-ce que faire un devis, une facture, relancer des clients, aller chercher des clients. Donc c'est vrai qu'après, on a le rôle de commercial, on a le rôle un peu de comptable, on a
secrétaire
aussi. Toutes les casquettes de secrétaire, tout ça. Et moi, c'est ce qui me faisait le plus peur. J'ai contacté je sais pas combien d'amis à moi qui sont lancés dans des entreprises parce que j'avais ce stress-là. Et ça, comment ça se passe, et ça. Ensuite, on fait ce stage d'une semaine à la Chambre des métiers. Et là, on reçoit tellement d'infos qu'on est encore plus perdu, quoi. On sort de là avec toutes les infos de partout. On aurait dû juste trier ce qui nous intéressait, mais ça va trop vite. Une semaine, c'est trop court pour tout assimiler. Et donc après, une fois que ce stress-là, ben, il est passé, quand on a lancé la société, il y a d'autres stress de pérenniser le travail et puis de satisfaire toujours le client, toujours le satisfaire. Donc c'est un autre stress, toujours avoir du boulot, mais en même temps, c'est prenant, c'est passionnant.
Hassan, sur la partie ouais, donc, pareil, montage du projet ouais.
C'est pareil, je le rejoins sur ce point-là. C'est vrai qu'il y a le stress d'avant de monter. Bon, après, on était confiants parce que c'est quelque chose qu'on gère. Voilà, c'est notre truc. Donc, du coup, on n'avait pas ce stress-là. Mais c'est vrai que monter, tout ce qui est papier, etc., ouais, ça met un stress en plus.
Alors, il y a donc des personnes hein, qui sont autour et qui accompagnent, qui conseillent. Donc, il y a ce stage pour vous aider à monter votre entreprise. Est-ce que malgré tout, vous avez commis des erreurs que vous ne referiez pas la prochaine fois, si jamais vous êtes amené à remonter une société ? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ou des erreurs que vous ne commettriez plus ? Je ne sais pas si c'est bien français, là, ma conjugaison du verbe.
Bon, pour moi, en ce qui concerne notre atelier, bon, ça s'est fait. Ouais, on était bien carré sur le truc. Donc du coup, on a bien géré le commencement, donc ça allait. Après, ouais, c'est vrai, l'expérience fait que ouais, on était préparé, quoi.
Cyril ?
Moi, je pense que l'erreur qu'on a peut-être fait, nous, au début, c'est que dans la société où je travaillais, on avait l'habitude de bosser avec un certain matériel. Donc, on s'est beaucoup appuyé là-dessus, sur ce que j'avais déjà fait là-bas. Et donc, avant d'attaquer notre société, quand on a eu les fonds, on a acheté beaucoup de matériel, beaucoup de quincaillerie, de choses comme ça, qu'on ne s'est toujours pas servi là au bout d'un an. Donc, on a dépensé énormément d'argent, entre guillemets, dans le vent. On a mis un petit peu la charrue avant les bœufs en se disant « Oui, mais si on doit faire ça, mais tranquille, en fait. » Partir ne serait-ce juste avec les bases et petit à petit, si on a besoin de matériaux, on aurait dû acheter petit à petit les choses. Mmh. Là, on est parti avec un stock de bois comme si on avait déjà 10 clients qui nous attendaient, quoi.
Ouais. Donc faire attention dans l'étude du projet ça, ouais. Sur les dépenses, ouais. Ce qui vraiment est indispensable.
Ouais, voilà. Partir avec les bases et de quoi faire de bonnes choses sans viser tout de suite trop loin en se disant qu'on va faire ça tranquille.
Quels sont vos objectifs d'avenir pour les deux sociétés là, parce que forcément, hein, il faut toujours penser, alors effectivement, aux clients. Il faut toujours qu'il y ait de l'apport, de chiffre d'affaires. Mais bon, là, on l'a dit, vos deux sociétés sont assez jeunes. Est-ce que malgré tout, vous avez déjà des idées un petit peu comment on pourrait faire évoluer l'entreprise ou c'est beaucoup trop récent encore?
Pour ma part, c'est encore un peu trop récent. On a plein d'idées, mais je crois que la priorité, c'est déjà de faire en sorte que ta base, elle est solide. Et là, on travaille uniquement sur ça. Donc, mais on a plein d'idées, on a plein de choses en tête pour l'avenir. Mais ouais, en ce qui concerne la priorité, c'est vraiment d'avoir une base.
Voilà. Ouais, de bien renforcer cette première boutique en centre-ville. D'ailleurs, on va faire ensuite une fin un promo. Hein, vous allez pouvoir nous donner tous les contacts pour les gens qui auraient pu écouter et qui sont intéressés par les services que vous proposez. Et Cyril, donc, est-ce que c'est pareil que Cassène? La société est encore trop jeune, là vous n'êtes pas encore dans des projets de développement, ou si vous y pensez quand même?
Nous c'est ça, c'est pareil, donc tenir une base bien solide, pouvoir embaucher et l'utilité...
Voilà, donc ça c'est quand même un projet, c'est pouvoir augmenter le nombre de salariés, voilà, pouvoir employer des gens et du coup pouvoir traiter davantage de travail.
De l'utilitaire, il y en a partout en France, donc aussi notre idée future, ce serait pouvoir se développer dans d'autres villes aussi de France et puis mettre en national notre travail.
Mm-hmm. Que ça devienne une franchise?
Pourquoi pas. Voilà.
Alors pour terminer, la question incontournable, hein, quand on a des témoignages comme les vôtres, c'est quel conseil vous donneriez à une femme, un homme qui a eu une envie récurrente, qui se dit « Ah là là, si je devenais mon propre patron, ça libère de toute la pression de la hiérarchie, etc. » Donc quel conseil est-ce que vous donneriez à ceux qui hésitent, qui se disent que c'est peut-être trop compliqué de se lancer?
Moi, je dirais qu'il faut essayer. Il y a pas mal d'aides en France, on a pas mal de subventions, de choses comme ça. Si le projet est bien étudié avant, il faut essayer. Enfin, moi, je prends mon cas, j'ai 33 ans aujourd'hui. Si ça fonctionne pas, ce que je me souhaite pas, bien sûr, si ça fonctionne pas, eh ben, il me reste toujours mes deux bras, quoi. J'irai travailler derrière, il n'y a pas de souci. Mais ça vaut le coup d'essayer, c'est une belle aventure.
Mmh. Ouais. Pareil, je le rejoins sur ce qu'il dit. Ouais, il faut aimer ce qu'on fait déjà. Si on aime ce qu'on fait, on y arrive. Et ouais, il faut bien travailler sur, faut bien ficeler son projet. Et effectivement, comme il dit, on a beaucoup d'aide en France. On est vachement conseillé. On peut demander des conseils de partout. On est aidé. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut saisir l'opportunité de dire qu'on est capable de le faire, et il faut aimer ce qu'on fait, et c'est ça la réussite. Donc, du coup, c'est important.
Et on entendait souvent dire que en France on est trop procédurier, la paperasserie, etc., l'administration qui pèse lourd. On le voit quand même sur vos deux activités à vous. Vous n'avez pas de secrétariat, c'est vous qui faites le travail. Donc finalement, est-ce que c'est lourd ou pas si lourd que ça, tout cet aspect administratif dans la création d'entreprise?
Ça prend quand même pas mal de temps. Mais ça prend quand même pas mal de temps, mais non, c'est pas une grosse charge. Ça fait partie du jeu en fait. Quand on sait aussi. Toutes les taxes qu'il y a, les choses comme ça. On sait avant de se lancer qu'il y a tout ça.
Ouais.
Donc, tout ça, on est averti de tout ça. Si on a peur de tout ça, oui, ça va être compliqué de se lancer. Maintenant, il faut les assumer et puis il faut savoir que ça existe. C'est comme ça.
Customage aussi, ça va? Vous arrivez à gérer?
Oui, ça va.
Ça va, ça va. Très bien, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, d'être venus jusqu'au studio pour nous faire part de votre expérience. Et puis, on rappelle, donc, Cyril Delecambre, c'est automobilier, aménagement de véhicules utilitaires. Alors, si jamais on a un artisan ou un responsable d'une concession qui a envie de voir un peu ce que vous faites, parce qu'il y a des gens qui... D'abord, vous montrez le travail, vous avez un site web avec des photos, ou faut que les gens viennent à l'atelier pour voir?
On a, les deux sont possibles, mais on communique pas mal sur une page Facebook où on partage un peu tout ce qu'on fait dans différents véhicules. Et puis bah, après, il y a les habitués en concession, comme ça, hein, quand on fait un véhicule, on leur ramène, après, ils s'habituent à notre travail et ils voient la qualité du boulot.
C'est aussi un peu le bouche à oreille dans le milieu qui fonctionne. Et vous êtes installé sur Sassenage.
Sur Sassenage, 6 bis avenue de la Falaise. Voilà.
Automobilier. Et Custom H ?
Alors, Custom H, on est donc à Grenoble, 3 bis Gabriel Péri. Donc, on n'est pas très loin de l'arrêt du tramway Alsace-Lorraine. Et puis, on a un site web. Donc, on a beaucoup de gens qui nous suivent sur Insta. Donc, c'est custom-h-du-bas. Voilà. Et sur Snap, donc custom.h. Voilà, si on voilà, veut voir curieux, un peu le travail qu'on fait, etc., les avant-après pour les rénovations et pour les sneakers, pour les customs.
Donc, n'hésitez pas. Merci, messieurs. Bonne continuation à Custom H et à Automobilier. À une prochaine fois, peut-être que vous reviendrez nous voir dans un an, puisqu'on sera encore en train de faire des émissions sur la création d'entreprises. Vous viendrez nous dire dans un an ou deux comment ça a évolué un petit peu le projet. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci également à Benjamin qui a assuré la technique. Merci à vous qui nous écoutez sur le 101.2 FM. Pour nous avoir suivis, et moi je vous dis à bientôt sur News FM pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi. Salut !
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole.